commencer par le... Calm down. Après, tu peux rire. Une fois que l'intro est passée, tu peux rire quand tu veux.
This is an awesome feeling when you are so close.
Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast conversationnel sur et autour de la pop culture. Je suis votre hôte Yael Simkovitch et aujourd'hui, 1er janvier 2017, on va parler de 2016. Non, non, pas pour se plaindre, mais pour parler de ce qu'on a adoré, écouté, voir, partagé, ce qui nous a fait réfléchir, pleurer, rire, donner envie de lire plus, d'écrire plus, de chanter plus, bref, vous l'aurez compris, que du positif aujourd'hui. Pour cette balade nostalgique le long de nos amours de l'année, j'ai réuni autour de moi ma petite famille. À commencer par le retour de mon binôme de vie dont vous entendez souvent parler sur Twitter sous le nom de Marskaya, mais qui à la ville répond plus simplement au doux nom de Marine. Bonjour Marine.
Bonne année.
Oui c'est vrai, bonne année à vous tous d'ailleurs. Mais la famille ne serait pas complète sans mon petit frère que nous appelons affectionnement, c'est pas un mot, je sais, on s'en fout, Petit Bear sur Twitter, mais qui en réalité se prénomme Thibaut. Bonjour Thibaut.
Bonjour tout le monde, bonne année.
Bonne année, c'est bien, on a réussi le challenge de dire bonjour. Comme nous avons des intérêts multiples et variés, j'ai établi quelques règles du jeu pour parler des trucs qu'on a aimés en 2016. En gros, j'ai 5 catégories et on a le droit à une seule entrée par catégorie. Et à la fin, on pourra dire tous les autres trucs dont on aurait voulu parler si on avait eu le temps. La bonne nouvelle, c'est que on va être un peu éclectique, on va pas que parler série, et d'ailleurs on va commencer par une catégorie plus universelle, qui est la catégorie cinéma. Et je vais commencer, je pense, par mon petit frère, pour lui dire, Thibaut, le film de l'année pour toi, celui en tout cas dont t'as envie de parler, celui le plus marquant, le plus intéressant, le plus je ne sais quoi d'autre, c'est quoi et pourquoi? Déjà, explique-nous un peu ce que c'est, et ensuite dis-nous pourquoi, et dis-nous aussi si on doit se boucher les oreilles si on l'a pas vu.
Mon film de 2016, c'est Snowden, avec Joseph Gordon-Levitt. C'est pour moi, je pense, le meilleur film de 2016, parce que c'est une vraie histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Snowden, c'est la personne qui a révélé au monde que les États-Unis avaient placé tout le monde sur écoute, espionné tous les pays et étaient au courant en fait un peu de tout ce qui se passait sur vos téléphones, sur Internet et en gros connaissaient tout ce qui se passe. Et donc il a, en travaillant, c'était pour les...
NSA.
Ouais, en travaillant pour cette organisation, donc NSA, il a déclaré, enfin il s'en est rendu compte et il a décidé de le révéler à tout le monde. Et depuis, il est réfugié politique en Russie. Et donc, voilà. Et c'est un film qui retrace toute son histoire, qui explique les risques qu'il a pris, ce qu'il a fait, comment il l'a fait, et maintenant dans quoi il vit pour avoir fait ça. Et c'est vraiment intéressant comme film, et ça fait prendre conscience de beaucoup de choses sur notre monde. Et c'est vraiment intéressant de se dire qu'en fait, à l'heure actuelle, ça se trouve, on est sur écoute, on sait pas, il y a peut-être quelqu'un qui nous filme, on sait pas trop en fait. C'est vraiment intéressant de savoir tout ça. Donc voilà, c'était... C'est pour ça que c'est mon film préféré de 2016. Puis c'est très bien fait, c'est vraiment bien fait, les acteurs sont bons, la réalisation est bonne, la musique est bonne dans le film, enfin tout est bon en fait.
Moi j'ai beaucoup aimé aussi, on l'a vu ensemble tous les trois. T'avais vu d'autres films d'Oliver Stone?
Non.
Parce que c'est un peu le conspirationniste chef des réalisateurs américains. Du coup j'avais jusque-là toujours, je me méfiais de ses films, et celui-là je trouve que c'est la... Enfin, pour une fois, il fait pas conspirationniste, il fait pas théorie du complot chelou. C'est lui qui avait fait JFK, je sais pas si tu l'as vu celui-là.
Avec Kevin Costner, ça.
Ouais, toute la théorie du complot autour de l'assassinat de Kennedy. Et justement, moi j'étais agréablement surprise, c'est comme s'il avait utilisé ses talents de réalisateur pour la bonne cause cette fois-ci. Et pour vraiment raconter un vrai truc. Et je pense que Snowden a été effectivement maltraité par l'opinion publique. Et qui méritait qu'on raconte son histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je suis d'accord, c'est un film important. Quoi. C'est vraiment un film. Et il n'y avait pas en plus l'actrice, c'est Shailene Woodley. J'adore aussi. Je trouve qu'elle joue super bien dans ce truc. Et puis ça, ouais, c'est ça. C'est que c'est pas seulement qu'on est espionné, c'est le fait qu'ils font ça en faisant semblant que c'est légal, alors qu'en fait c'est pas légal. Quoi. Ils s'en contrefoutent, quoi.
Bah ouais. Ouais, totalement. Et puis même au jour d'aujourd'hui, encore les politiciens actuels aux Amériques, en Amérique, ils pardonnent toujours pas Snowden. Hein. Ils veulent toujours pas le laisser revenir sur le territoire américain.
Mais il a demandé.
Il a demandé à Clinton et même Clinton lui a dit non.
Non, mais il a demandé à Obama.
Oui, il a demandé à Obama. Clinton a dit dans sa campagne que Si elle était élue, elle ne lui accorderait pas le fait de revenir. Donc, bon, Trump.
Il essaiera avec
Trump. Bah, Trump, il a très bonne relation avec la Russie en même temps. Oh, I just can't believe I just said that.
Oui, mais... de là à le faire revenir, ça m'étonnerait. Et...
Mais en même temps, Obama... Enfin, les présidents, ils donnent des grâces le jour de leur départ. Donc, il est possible que... Enfin, il a demandé à être gracié par Obama à son départ. Donc, jusqu'au 19 janvier, c'est possible qu'Obama le... Et oui, il y a toujours des pétards à Berlin le 1er janvier. Ça fait 5 jours qu'ils nous font chier et ils n'ont toujours pas fini. Donc on va voir. Mais il a redemandé là à Obama pour de le gracier avant de partir. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il le fasse. Mais après, est-ce que on a envie de vivre dans l'Amérique de Trump? Remarque par rapport à Poutine. Bon, enfin, donc, et excellent choix en tout cas.
Par rapport à ce film, ce qui est bien, c'est aussi Joseph Gordon-Levitt est absolument génial. C'est toi qui m'avais dit qu'il avait rencontré les parents pendant la première, les parents de Snowden, en fait, qui lui avaient, je ne sais plus exactement le truc, mais qui l'avaient félicité de son interprétation par rapport à son fils, parce qu'ils avaient l'impression vraiment que de voir son fils à l'écran, quoi. Enfin, c'était vraiment, bon, à part le côté physique, mais...
J'avais complètement oublié que je t'avais raconté ça, mais je ne m'en souviens pas, mais ça a l'air...
C'est toi ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais bon, comme je l'ai vu avec toi, je me dis que c'est toi, vu que tu étais plus au courant de ce qui s'était passé.
Et puis les jours d'après, effectivement, j'ai passé pas mal de temps...
Parce qu'elle est souvent plus sur Twitter ou sur ces trucs-là pour voir ce qui se passe dans la pop culture. C'est l'encyclopédie de la pop culture. Donc voilà. Donc ouais, en tout cas, son jeu était quand même...
Il
a rencontré, en fait.
Et Shailene Woodley et lui ont passé du temps avec Snowden et avec
la copine, hein,
avec sa copine, ouais.
Qui vit avec lui maintenant.
Oui, parce que c'est ça, ça. Le truc du film, c'est que tu réalises que sa nana, pendant toute l'histoire, en fait, elle a effectivement choisi de vivre avec lui à Moscou, même si elle n'est pas exilée, quoi. Et c'est cool quand même. Ça, c'est l'amour. Non, moi, je crois que j'ai pleuré à la fin de Snowden. Donc, je suis, ouais, super choix. Marine.
Alors, mon film préféré de 2016, c'est Arrival, qui en français, je crois, s'appelle Premier Contact.
Ouais. Et là, vous regardez consternation générale. Pardon, faut pas critiquer.
Horrible titre français. Qui raconte, donc, qui est un film de Denis Villeneuve, québécois, qui raconte lorsque. Il y a 12 appareils. Mystérieux, enfin venant de l'espace, qui apparaissent à 12 endroits différents du monde, en fait, ils embauchent entre guillemets une linguiste, c'est linguiste en français qu'on dit,
oui.
Une linguiste afin de communiquer avec ces êtres
extraterrestres,
voilà, tout simplement. Donc, c'est la version simple, parce que, bon, faut pas tout raconter non plus, parce que c'est absolument génialissime. C'est joué avec... donc, la linguiste, c'est Amy Adams qui joue. Il y a aussi Jeremy Renner, donc pour le grand plaisir. Et ensuite, il y a aussi... Whittaker.
Ouais.
C'est Whittaker qui est dedans. Bon, et après, il y a d'autres... Il y a d'autres acteurs dont j'ai quoi de m'oublier l'existence, vu que Amy Adams et Jeremy Renner prennent tout l'écran de toute façon. Donc, après... c'est absolument super, enfin c'est un film tellement humain, en fait, qui montre l'importance de la communication dans le monde, l'importance de du langage, qui fait que donc la communication, toujours, qui est quand même un mot important pour moi en 2016, communication, et qui devrait être important en 2017 aussi. Et d'ailleurs, il y a une phrase dans le film dont je ne sais pas, peut-être que Yael s'en souviendra parce que she's good with words, elle est bonne avec les mots. C'est où ils sont à l'intérieur d'un des vaisseaux et ils parlent de communication et d'amour, et qu'en fait il y a un truc qui n'est pas, genre limite c'est pas compatible, enfin de trop parler, enfin tu peux pas avoir de relation. Tu te souviens de cette scène ?
En fait, c'est devant le truc, c'est Jeremy Renner, elle, c'est quand ils ont un break, ouais. Et Jeremy Renner lui dit qu'elle approche le langage comme une mathématicienne, ouais. Et que surtout il dit tu vois des choses dans le langage, des trappings, qui est vraiment un mot génial qui n'existe pas en français, mais des complications, des en fait c'est le mot, c'est presque comme piège, mais c'est plus comme des aspérités dans le langage que lui, dont il n'imaginait même pas l'existence. Et il dit je comprenais même pas qu'il y avait ces trucs là et il dit c'est peut-être pour ça que je suis célibataire. Et elle lui dit c'est pas parce qu'on comprend la communication et qu'on sait l'utiliser qu'on n'est pas célibataire.
Je me souviens, pendant le film, on s'est regardé en disant yeah!
C'est clair.
I got that. voilà, et juste donc pour expliquer juste aussi, donc Denis Villeneuve, c'est donc un de ces super réalisateurs québécois, vu qu'il y en a d'autres. Mais celui-là, il a fait Sicario, il a fait qu'on avait adoré au cinéma, enfin qu'on avait vraiment adoré. J'ai acheté le Blu-ray. Il a fait Incendie. Donc après c'est pas des films faciles, mais c'est des beaux films. Donc ça apporte. Enfin quand tu sors, c'est des films qui te marquent surtout en fait. Ça te marque et il a fait Prisoners que je n'ai pas vu, ouais. Et il a fait Enemy.
Avec Jake
Gyllenhaal et l'autre c'est avec.
C'est pas dans les deux. Il est pas dans les deux, Jake Gyllenhaal.
Je suis pas sûr. Dans Prisoners peut-être. Oui peut-être.
Si dans Prisoners il est.
Oui, dans Prisoners c'est surtout Hugh Jackman qui est dans Prisoners aussi.
Il en a fait deux de suite avec Gyllenhaal.
C'est possible. En tout cas, voilà, donc deux films d'ailleurs que j'ai, qui forcément qu'on regarde, qui sont dans nos projets. Et voilà, donc en fait, Rival, et en plus c'est un film qui m'a tellement émue qu'à la fin j'en ai pleuré d'émotion. Vraiment, ouais. J'ai trouvé ça beau, et c'est le film qui te touche, quoi, mais voilà, et je vais pas, enfin j'ai envie d'en dire plus sur le film, mais j'ai pas envie non plus de spoiler, parce que c'est un film... faut voir pour comprendre de toute façon, donc tu peux pas raconter trop d'histoires.
Non, mais par contre, je me dis vraiment que ça vaudrait le coup, surtout parce qu'on a une amie qui l'a vu, qui a beaucoup aimé aussi, qui est linguiste, de faire un podcast. Une fois que ça sort en DVD, qu'on a le temps de le revoir.
Tout à fait, ouais.
De faire un vrai podcast où on discute, parce qu'il y a, enfin, mais Thibaut, toi aussi, ça t'a plu, hein.
Oui, beaucoup, j'ai beaucoup aimé. C'est intéressant comme film, c'est. Et ça te montre quand même que la communication c'est vachement important et qu'il peut se passer beaucoup de choses si on communique pas, mais qu'on peut résoudre beaucoup de choses avec la communication. Et c'est vraiment intéressant et c'est quand même un beau message, je trouve, qu'il y a dans le film. En fait, c'est quand même un beau message d'espoir, pour pas en dire plus, mais voilà, c'est vraiment intéressant et vraiment à voir comme film.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et moi en plus, enfin, c'est des super scientifiques déjà. Moi déjà, des bons scientifiques et des linguistes, de l'importance du langage, c'était un peu pour moi. Enfin, j'avais peu de chances de pas aimer. Et surtout, il y avait vraiment l'idée d'avoir des scientifiques intelligents par rapport à dans les films. Généralement, les scientifiques sont un peu teubés. C'est pour ça qu'ils touchent le monstre et que tout le monde est contaminé. Et ce genre de conneries. Oui, je te regarde, Prometheus. Je pense
à faire prendre du recul. Donc,
oui, c'est ça. Et y a un truc sur le processus de la science aussi. Enfin, en gros, il y a des milliards de trucs dans ce film et je suis entièrement d'accord avec vous deux.
Non, puis surtout, c'est quand même pas mal réaliste parce que tout se passe pendant une semaine. Tu comprends, ouais. Qu'il y a quand même beaucoup de temps qui s'écoule entre.
Absolument.
Enfin, c'est vraiment intéressant et puis surtout, c'est. Enfin, quelqu'un qui ne dit pas que les extraterrestres, c'est des méchants.
J'ai envie de le revoir, là, tout de suite.
Ah, c'est clair. Voilà. Donc, Arrival, premier contact, avec il y a une affiche super chelou en français, où ils sont tous les deux mais avec des casques de cosmonautes. Donc, en fait, t'as vraiment l'impression que ça se passe... Oui, du coup, t'as vraiment l'impression que ça se passe dans l'espace. Non, et puis Jeremy Renner, je suis désolée, il fait n'importe quoi, mais n'importe quoi à l'écran, même en second plan, au flou. Moi, ça me rend heureuse. Donc, voilà, malgré tout le reste... ce qui est un débat ouvert sur la réputation de Jeremy Renner, mais en tout cas ça fait juste plaisir de le voir sur grand écran.
Et toi?
Et moi? Et alors moi j'ai pris un autre film pas du tout controversé, parce qu'on a clairement pris des choix consensuels, on est tous d'accord, et je suis là aussi, je pense que vous êtes assez d'accord, enfin surtout Marine, mais je pense aussi toi Thibaut, tu l'aimes bien aussi. J'ai choisi Zootopia, le Disney du début de l'année, qui est donc sorti en mars, il me semble, février, en février en France, mais on l'a vu en mars, je crois, je ne sais plus, en tout cas, c'était au début de l'année, et c'est celui avec une lapine sans peur et sans reproche qui s'appelle Julie Hopps, alors ça se passe dans un univers où il n'y a pas d'humains et où les animaux se sont civilisés un peu comme nous et ont créé une ville, des villes, une civilisation. Il y a aussi des gens qui vivent à la ferme, notamment Julie Hopps, elle vient d'une ville où il y a beaucoup de lapins qui font pousser des carottes. C'est donc complètement Disney, dans le sens où c'est un dessin animé pour tout le monde et tout ça, et en même temps, ce que je trouve moi aussi très Disney, parce que clairement ça fait de nombreuses années que je dis qu'il y a une politique sociale assumée chez Disney, et au niveau genré, et au niveau des gens de couleur, même si on leur reproche de ne pas être assez coloré. Et en fait, cette gentille lapine, elle veut devenir flic et elle veut vivre à Zootopia, la grande métropole, où tous les animaux vivent dans la paix et l'harmonie la plus complète. Malheureusement, quand elle obtient le job dont elle rêvait, elle se rend compte que les relations entre espèces ne sont pas aussi simples que ça. Et c'est une parfaite métaphore pour toute une série de problèmes sociaux. Et ce qui est génial, c'est que c'est une parfaite métaphore, mais pas une métaphore calquée. Donc c'est pas « Ah, eux c'est les blancs, eux c'est les noirs, eux c'est les femmes, eux c'est les hommes, eux c'est les homos, eux c'est les hétéros, eux c'est les pauvres, eux c'est les riches ». C'est absolument pas ça, la métaphore fonctionne justement de façon beaucoup plus flexible et du coup pose la question juste de l'autre, de celui qu'on connaît pas, de celui dont on a peur, de celui contre lequel on a des préjugés. Le conflit général du film, c'est entre les proies et les prédateurs. Avec cette idée qu'il y a 80% de proies et 20% de prédateurs, mais les proies ont peur des prédateurs. Là, clairement, la métaphore afro-américaine paraît assez évidente. Le fait d'avoir peur de 20% de la population et de les avoir démonisés. Mais elle n'est pas vraiment suivie par le film, et tant mieux, parce que sinon ça sous-entendrait que quand même, parce que dans la nature, les prédateurs effectivement essaient de bouffer les proies, et donc ce serait vraiment problématique de pousser cette métaphore jusqu'au bout. C'est pas ce qu'ils font du tout. Il y a la question qui est traitée de façon complètement sous-jacente du genre, parce qu'elle est... c'est une fille, mais en fait elle est traitée mal par les flics parce qu'elle est petite et que c'est une proie au départ, vu que c'est un lapin. Ce qui sert de métaphore au fait que, à comment une femme serait traitée dans, dans les forces de police, mais qui est traité de façon du coup hyper subtile parce qu'ils le disent sans le dire et du coup ils le montrent. Et c'est ultra drôle, ultra fun, ultra... Il se passe plein de trucs, plein de retournements de situation, les acteurs sont géniaux. Et ce qui est particulièrement, moi, au-delà d'être une leçon d'écriture, de vie, de tout ce que tu veux, il y a un truc que j'ai appris après la sortie du film sur le film qui m'a fait encore plus aimer Disney et encore plus aimer ce film, c'est que le personnage principal c'est Julie et le second personnage principal c'est Nick Wilde qui est la voix, c'est Jennifer Goodwin qui fait Julie et c'est Jason Bateman qui fait la voix de Nick Wilde qui est un renard, donc l'ennemi naturel du lapin, qui est un espèce de grifter, donc un espèce de délin, semi-délinquant cynique qui fait un peu ce qu'il peut pour survivre dans les rues de Zootopia. Et en fait, pendant tout le développement du film, c'était lui le personnage principal. Et à un an de la sortie, ça fonctionnait pas. Et ils ont décidé d'intervertir. Ils se sont dit, mais en fait non, parce que son point de vue est trop cynique. On a besoin d'un point de vue positif, optimiste, pour que du coup la déception de la réalité soit pas le point de départ, mais ce soit un retournement qui va ensuite, qu'on puisse après surmonter. Et du coup, ils ont décidé de faire du second personnage, qui était censé être juste un personnage vraiment de sidekick, en fait, le personnage principal. Et c'est... Enfin, quand on imagine le temps de développement, d'écriture, d'animation qu'un studio comme Disney doit dépenser pour faire un film comme ça, et qu'ils ont en gros jeté la moitié de leur film en se disant « c'est pas assez bien comme histoire, on va faire une meilleure histoire », ça, c'est une leçon d'écriture et de création, quoi. Genre, non, c'est pas parce qu'on est, au top qu'on va se complaire dans la médiocrité, quoi. Si on peut faire mieux, on fait mieux et on repart à zéro. Et puis surtout, c'est une idée de génie, parce que du coup, le film est très différent. Et voilà, et ça m'a fait encore plus aimer. Donc je vous rappelle quand même, moi, je suis pro Star Wars, pro Marvel, pro Pixar. Disney continue à cartonner à fond les ballons pour moi, et ça me fait bien plaisir.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais je crois que Thibaut a un petit pic.
Tu faisais le nom de la tête, mais en même temps j'ai dit à cartonner à fond les ballons pour moi. Donc tu peux pas faire nom de la tête vu que ça. Et donc du coup Zootopia, je sais que toi aussi t'as beaucoup, voilà. Oui, et toi Thibaut, t'as fait des grimaces pendant que je parlais, donc c'était juste pour m'embêter, me déconcentrer, ou c'est parce que t'as des critiques?
Non, c'est juste que quand tu dis que les autres policiers c'est pas des proies, c'est aussi des proies. C'est juste que contrairement aux lapins, effectivement, c'est des bœufs, donc oui, ils sont quand même plus imposants. C'est des rhinocéros, des bœufs, ça reste des trucs qui sont...
Enfin les rhinocéros, c'est pas une proie, mais les bœufs, peut-être, effectivement.
Le rhinocéros, ça reste une proie, bon, il se fait...
Non, le rhinocéros, c'est le seul animal adulte qui n'a aucun prédateur naturel. Donc le rhinocéros, par définition, n'est pas une proie.
Enfin, ça reste après des hippopotames, des bœufs, et des hippopotames, ils ont quand même des problèmes.
Oui, mais je pense que dans la classification, la classification, elle, c'est une des seules proies. Enfin, j'ai pas vérifié, donc c'est possible, mais dans la classification, pratiquement tous les animaux qui travaillent pour la police sont des prédateurs.
Parce que c'est pas des bœufs, c'est des buffles, c'est des...
Ouais, mais les buffles, c'est quand même vachement en Afrique, enfin, ça reste quoi. Hein.
Par rapport à tout ce qui est tigre, etc., c'est des proies.
Oui, voilà, c'est, ça reste des proies.
Mais après, s'ils vont te montrer ceux qui ont des grosses cornes et qui sont...
je pense que dans la classification,
ils vont te montrer ceux qui sont forts.
Oui,
quoi,
je sais, bah oui, de toute manière, il faut qu'ils appuient leur métaphore du fait qu'elle est toute petite et que du coup, forcément, ils vont pas la mettre sur le terrain comme elle l'imaginait tout de suite. Oui,
il y a des loups, il y a des... Enfin, c'est, oui. c'est des...
Non, les loups, ils sont pas dans la police.
Si, il y en a aussi. Je pense que... Bah non, mais justement, c'est ça, c'est pas... Justement, il n'y a pas de classification aussi... Je pense qu'ils se sont méfiés. Je pense qu'ils se sont méfiés, il faudrait revérifier. On va revoir 200 fois.
Regardez
zut alors sur grand écran pour bien vérifier et on va faire arrêt sur image.
Ouais, c'est le DVD, quoi.
Bah déjà, on a mis du temps à trouver les écureuils. Hein. Il y en a un.
Oui.
On a mis du temps à les trouver.
J'ai trouvé les écureuils.
C'est au début, quand elle arrive...
Il y en a plusieurs. Il y a pendant la... Où elle fait son... Où elle parle, elle fait un mince... Un interview où elle parle devant et il y a des écureuils qui sont des reporters.
Of course.
Et puis c'est les seuls écureuils en fait, c'est des reporters et sinon tu les vois parce que tu vois un mec qui vend des DVD dans la rue et tu vois les DVD et c'est pas Frozen et les trucs comme ça mais c'est genre écureuil en Peter Pan, tu sais, chou, genre épique, ça doit s'appeler épique ou un truc comme ça et, voilà quoi, c'est les nouveaux dessins animés. Avec des animaux, et c'est trop marrant, c'est trop... Regardez, vous ferez un arrêt sur image.
C'est ça, il y a aussi un foisonnement de détails. Moi, le premier truc que j'ai pensé, c'est il est où le parc d'attractions, quoi. Moi, je veux aller à Zootopia.
Ah, c'est clair.
Et surtout, faites 200 films dans cet univers, vous n'avez même pas besoin que ce soit Julie Hobbs.
Prendre le train et pouvoir voir, et passer dans tous ces... parce que c'est, la ville est séparée par saison, quoi.
Par habitat, type
d'habitat. Mais ça fait l'impression que tu passes de la neige, tu passes au côté Amazonie, tu passes, tu vois, c'est vraiment le... Et surtout, t'as la girafe, t'as le...
le train avec la girafe.
La girafe, c'est ouvert pour que la girafe puisse passer son coup, quoi.
Enfin, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de le regarder, ce film est magique et vraiment à partager. Et soyons clairs, en réalité, c'est...
Il y a la musique, il y a Gazelle, hein.
Voilà, et justement, d'ailleurs, cette chanson de Shakira qui est en fait avec un message incroyable de « tu te casses la gueule, faut se relever », ce qui est hyper agréable, et qui est quelque part le message du film, c'est-à-dire que, ok, on est optimiste, mais la réalité est compliquée, et il faut continuer à essayer de l'améliorer. Et soyons clairs, c'est le message le plus intelligent et le plus complexe sur les relations raciales et genrées et ethniques et de classe que j'ai vu. J'ai vu aucun film, entre guillemets, normal, donc pas d'animation, qui puisse traiter aussi largement et clairement de ces questions-là, et en donnant pas de réponse claire, plus des directives, des principes de base, qui est ne pense jamais que tu as déjà compris la situation, mets-toi à la place de l'autre et essaye d'avancer, et surtout, communiquer.
Communication.
Parler. Donc voilà, donc ça c'était pour les films. C'est bien, ça fait, je pense, déjà 2 heures qu'on parle. J'exagère. Alors, après les films, on va passer à la musique. Donc c'est un truc dont on parle rarement parce que c'est compliqué d'en parler. Moi j'ai toujours envie du coup de faire semblant d'être une DJ de radio et de passer plein de trucs, mais on n'a pas le droit de passer de la musique, donc ça me saoule. Du coup je parle rarement de musique dans ce podcast, à part quand je parle de Taylor Swift. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de Taylor Swift parce qu'elle n'a pas rien sorti en 2016. Et enfin presque rien sorti. Et on va parler d'autres trucs. Je regrette de t'avoir montré, Thibaut, comment on faisait le signe loser. Parce que tu viens de le faire.
Déjà avant toi, mais
avant
que tu...
Avant toi. Le lapsus.
Ah là 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 là. Je rappelle que mon petit frère est encore à la fin, toute fin, mais qu'encore dans son adolescence, et il a besoin de m'expliquer qu'il a compris le monde avant moi.
Non.
C'était un joli lapsus.
Ce signe, je le connais depuis un certain temps.
Parce que j'essaie de lui vendre Clueless l'autre jour. J'essaie de lui dire, alors Clueless dedans, parce qu'il avait son t-shirt whatever avec le mignon, et je vais dire, eh ben Clueless, et eux, ils font whatever et ils font loser. Et je dis, il y a Paul Rudd dedans. Et il a fait, ah. Ah, l'argument. Bon, alors, au niveau musique, donc toi en plus, t'as des goûts intéressants, éclectiques et multiples et variés. Vas-y, Thibaut.
Donc, je retiens un album particulièrement en musique cette année, qui est sorti le 2 décembre. C'est l'album Cyborg de NFE. Donc, c'est du rap. Mais c'est du rap sur son album, je crois, il y a une quinzaine de chansons. Et c'est vraiment divers et varié. Il y a, enfin, c'est pas un type de rap, c'est pas juste du rap où, ouais, vas-y, j'encule tout le monde et machin. C'est pas du tout comme ça.
Ouais, serais-tu en train de penser qu'il y a de dire qu'il y a des gens qui ont des préjugés contre le rap et qui ont des idées arrêtées?
Bah, quand tu vois en France les représentants du rap qui passent à la télé, du style Jul.
Ton ennemi juré.
Ouais, Maître Gims, Black M et ce genre de guignol. Il faut aller au-dessus de ça. Je sais que c'est compliqué, c'est une image vraiment qui est dure à briser parce qu'il faut fouiller pour trouver des bons rappeurs en France, mais ils existent, vraiment. Il y a une vraie communauté de rap qui existe. Il faut juste trouver les bonnes adresses et savoir comment s'entretenir, mais vraiment, ils existent. Et Nekfeu en fait partie. Et Cyborg, c'est vraiment un album, moi, je trouve, qui est vraiment bien. Toutes les chansons sont bien, je trouve, sauf une que j'aime un peu moins. Mais vraiment, elles sont, c'est ouf, l'écriture est bonne, enfin... Et enfin, c'est un album génial, quoi. Les paroles sont bonnes, la musique est bonne, la production est bonne, enfin, tout est bon dedans. Et surtout, il l'a sorti en mode surprise. C'était pas prévu, tout le monde pensait. Enfin, moi personnellement, je pensais que vu le temps qu'il a mis à écrire son premier album, à savoir genre 6 ans, je pensais qu'il allait mettre un temps fou pour sortir son deuxième album. Et un an après, genre, salut, je vous sors mon nouvel album au concert en direct live de Bercy, il l'a annoncé. Donc, c'était vraiment grosse surprise. Et donc du coup je m'attendais vraiment pas à quelque chose de ouf et en fait quand je l'ai écouté j'ai fait ok et bien
ça calme,
voilà.
C'est... une question par rapport, tu dis c'est sorti de décembre de 2016 ou de 2015?
De 2016.
Ok, non parce que des fois ça fait en fin d'année. Ok, donc c'est vraiment Cyborg, ça même pas un mois quoi. Non, d'accord, c'est ok, c'est vraiment
Cyborg. La thématique du, tu m'avais dit un truc sur la thématique du de l'album, du coup c'est sur le, sur quoi, c'est sur les gens qu'on, enfin c'est sur le la société moderne sans âme, y a pas un truc un peu
c'est
comme ça, ça.
Ouais. Ouais, c'est un peu genre
parce que c'est un peu politique quand même, enfin politique sociale en tout cas, pas politique, le parti politique.
Enfin, c'est pas vraiment de la politique. Je pense que c'est plus pour, enfin c'est pas une dénonciation non plus, c'est plus pour montrer dans quel monde on vit. En même temps, il dit pas que lui ça le dégoûte machin et tout, il montre juste quand même dans quel monde on vit. Et tu te rends compte que c'est quand même assez surréaliste quand t'entends ce qu'il dit, tu te dis ah oui c'est quand même vachement vrai. En même temps, tu te rends compte quand même dans quel monde tu vis, tu te rends compte à quel point le monde va loin, tu te rends compte à quel point c'est... que l'importance des réseaux sociaux, enfin tout ça, ce que c'est aujourd'hui, et de lui-même, parce qu'il a, enfin je l'ai entendu, il a juste fait une interview après Bercy, où il expliquait que sa plus grosse peur de cet album secret, c'est que il a pas fait beaucoup de guests dessus parce que il avait très peur que ça soit
dissimulé,
voilà, ouais. Donc il avait vachement peur de ça et ça a été la chose la plus compliquée pour lui de faire ça et justement à cause de tous les réseaux sociaux, la télé, et que maintenant, de toute manière, les journalistes, ils prennent n'importe quelle information sans la vérifier juste pour faire le buzz. Et c'est vraiment... Donc c'est, voilà. Et donc je trouve que c'est vraiment important. Et puis pour moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cet album parce qu'il y a plein de paroles qui me ramènent à une situation que je suis en train de vivre. Et c'est vrai que du coup, t'es là, donc je ne suis pas seul à le vivre, je ne suis pas incompris, et c'est génial. C'est donc du coup, ça fait vraiment... Enfin, ça a fait que ça m'a vraiment
voilà. Aidé cette année.
Ouais.
Voilà,
mais je pense que les meilleurs albums.
La communication.
Je pense que c'est les albums les plus importants de nos vies. C'est toujours des trucs où, que ce soit de la métaphore ou que ce soit vraiment exactement la même situation, où c'est un truc où tout d'un coup tu dis putain, ça me parle, ça accompagne mon voyage. Je pensais à Journey, c'est pour ça.
Mon journal intime.
Aussi. Mais moi, j'ai une compile que j'ai fait il y a très longtemps qui s'appelle Diary, qui est je suis incapable d'écrire un journal intime, mais je peux mettre une série de chansons de la suite de l'autre pour expliquer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ça commence. La deuxième chanson, c'est il n'y a aucune poésie entre moi, dit le papier au crayon. C'est une façon de parler de fait de pas réussir à écrire.
C'est pas mal de compiles.
Pas du tout.
Non, du tout.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire d'ailleurs. Allez regarder ma compile de Noël qui est sur le site. Et il a refait le geste de loser. Voilà, c'est bien d'être soutenu par sa famille. Je crois que j'ai écouté la première chanson de l'album. Excuse-moi, parce que tu vois, moi je te soutiens. C'est la première chanson de l'album que j'ai écouté dont on avait parlé. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et elle s'appelle comment? C'est Cyborg, c'est ça, ou c'est une autre?
Humanoïde,
c'est ça. Et j'ai trouvé ça très, 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 très bien. J'ai trouvé ça, ça m'a fait penser. Alors après, j'ai juste écouté ça une fois, donc c'est peut-être complètement injustifié, mais ça m'a fait penser à Kendrick Lamar et à To Pimp a Butterfly. Et en tout cas, l'impression que cet album me laisse quand je l'écoute, c'est-à-dire l'utilisation de trucs sonores pour faire passer une émotion complexe et intime et subtile. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que ça m'a marqué. Ceux qui veulent tester pour en écoutant un track et un morceau, lequel, je vais le mettre du coup sur le site, sur le post, tu conseilles lequel? Quelle chanson de l'album?
Réalité augmentée.
Réalité augmentée. Ok.
Mais c'est bien, mais en tout cas, moi qui n'aime pas le rap, je serais contente que tu me fasses écouter l'album.
Ouais, puis en plus, c'est vachement intéressant parce qu'il y a vraiment, donc, il y a vraiment 15 chansons et il y a 7 et 8 chansons. Enfin, il y a 8 chansons qui sont vachement donc, comme Humanoid, et t'as 7 chansons qui sont un peu plus douces, qui sont un peu où il parle plus de lui personnellement. Et, donc c'est vraiment intéressant, enfin, c'est vraiment, vraiment ça varie, ça diffère, c'est vraiment bien. C'est pas que la même production, n'est-ce pas, Jules? C'est trois notes de piano sur un fond de nique ta mère machin et tout. Ok, vraiment des paroles.
Je suis juste sur le fait que je disais que j'aimais pas le rap, en fait j'aime pas le rap français, j'en écoute pas en fait, à part les débuts MC Solar qu'on écoutait.
Et IAM, on a 2-3 tracks d'IAM.
IAM, ça me touche pas non plus.
Ouais, mais on en a 2-3 parce que à quel attend des
fois. Moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. En fait, je les ai écoutés un peu en fonction de mes amis qui écoutaient ça, mais sans plus quoi. Je suis plus rock que rap. Mais le rap américain, ça touche aussi différemment. Mais en tout cas, je ne porte volontaire à écouter pour que tu me convainques. Plus, tu vois, parce que je suis pas encore complètement convaincue, vu que je suis vraiment complètement arrêtée contre le rap, justement. Je fais partie de ces personnes qui trouvent... Mais je suis quand même open à ce que tu me le fasses écouter. C'est quand même pas mal.
Mais t'avais bien aimé, non, le commencer loin.
Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas... Parce que je veux dire, c'est un film, déjà.
Ouais, mais les chansons qui étaient dedans, tu vois, c'est...
Oui. J'ai trouvé ça sympa. Je veux dire, après, je suis pas couru chez le disquaire m'acheter l'album, quoi. Ce que je veux dire,
la vision en 2010, le 1er janvier 2017 de quelqu'un qui court chez le disquaire, c'est pas un peu littéralement une phrase de Starmania? C'est possible. Chez le disquaire m'acheter, il s'appelait, c'est là que j'ai rencontré l'amour de ma vie.
Merci,
il s'appelait David Bowie.
Je suis partie de la génération 90, mais plutôt je suis née en 70. Donc ça, c'est moi, je vais ça.
Elle va faire le signe de loser.
Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a des noisettes sur la table. Bientôt, je vais les prendre et je lui balance. C'est genre.
Oui, oui, ce n'est pas une blague.
Non, c'était...
Dans la maison des écureuils, il y a des noisettes sur la table. Tout va bien.
Donc, oui.
Mais c'est ça, c'est. Et
bien
surtout
sûr,
que.
Très bien, ça m'avait beaucoup.
Surtout quand il dit le disquaire, je suis allée échanger chez le disquaire. C'est là que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Il s'appelait David Bowie.
David Bowie, qui est d'ailleurs ma chanson de l'année.
Ah, c'est vrai.
Exactement.
J'ai même pas pensé qu'on faisait une transition. Waouh.
Qui est pour moi, donc, c'est Lazarus. La chanson qui, pour moi, représente cette année 2016 dans toute sa splendeur. C'est la chanson donc, qui fait partie de son dernier album Black Star. Et en gros, c'est la chanson et la vidéo, en fait. Il faut regarder les deux ensemble parce que la vidéo est, est absolument sublime. Et c'est cette chanson sur la mort et sur la renaissance et sur... une sorte d'acceptation aussi de ce qui se passe et moi ça m'a touchée vraiment personnellement parce que bon c'était une année difficile bon pour plein de monde concernant David Bowie les célébrités qui sont toutes parties cette année mais personnellement vulgairement on en a chié cette année et donc on s'en remet, c'est le 1er janvier, donc là c'est un nouveau départ, mais bon, je reste super positive, mais on va en chier cette année aussi, mes chéris, parce que c'est que ça continue, la merde est partout encore, donc c'est à nous de changer les choses. Donc vous pouvez écouter Lazarus, qui va vous transporter, regardez cette vidéo qui est vraiment sublime, c'est juste sublime.
Mais c'est sorti le jour de sa mort.
Ouais, exactement.
Ou la veille au soir.
Le CD est sorti, je crois, 2 jours avant ou un truc comme ça. C'était.
Oui, et la vidéo est sortie ce jour-là. C'est le 11 janvier.
Oui, ça a été. Ah, tout à fait, c'est audacieux, ça y est.
Le mot préféré, Thibaut.
Donc après, j'ai pas grand chose à dire dessus. Faut écouter la musique, les paroles sont sublimes. Mais c'est vraiment une chanson très personnelle en plus. Tout le monde va le. Enfin, c'est. Ouf, ça te prend. Enfin, moi, ça me prend au trip, quoi.
Mais l'album est.
Il est différent en plus de ce qu'il a fait, je trouve.
Bah, disons que c'est un album de. En fait, c'est ce que j'ai mis. Au début, j'étais. Il est bizarre cet album. Moi, je fais. Ah, c'est un album de jazz. C'est du jazz. C'est pour ça que c'est bizarre. Non, mais tu sais. Parce qu'en fait, All Songs Considered, qui est un podcast musical dont je vais parler à la fin du. Dans ma liste de trucs géniaux de 2016 dont je n'ai pas le temps de parler en détail, ils ont fait une interview avec certains des. Ouais, spoiler alert. Ils ont fait une interview avec certains des musiciens qui ont participé à l'album, mais en novembre. Donc au moment où ils attendaient l'album, qu'elle allait sortir, ils avaient un track, et puis c'était pas David Bowie est mort et tout ça. Donc en novembre 2015. Et du coup, en écoutant cette conversation qui était déconnectée de l'actualité de sa mort, j'ai compris des tonnes de trucs sur l'album. Et je le mettrai en ligne sur le truc. Mais en général, enfin moi, David Bowie, c'est clair que du coup, il a plus partagé mon année que.
Oui, parce que bon, après, bien sûr, vu que c'était en début d'année, on a commencé à écouter tout David Bowie, essentiellement Yael, tout des mois. Genre, tu rentrais, c'était genre. Ah voilà. Parce qu'elle travaille à la maison, donc déjà, elle a plus de possibilités d'écouter David Bowie. Moi, je sais que les 5 premiers mois, je pouvais pas vraiment écouter David Bowie parce que c'était. Je travaille avec Gary Lafayette et janvier c'est surtout encore les trucs de Noël. Je sais pas pourquoi.
Mais à
et puis ils en ont mis quelques-uns.
Et c'est ça, les jours qu'on suivit, parce que ça c'était un truc très berlinois, les jours qu'on suivit au Gary Lafayette et le jour même il me semble, mais après les jours qu'on suivit au Gary Lafayette et ailleurs dans Berlin, ils passaient de la musique David Bowie partout.
Oui, mais le problème c'est que le Gary Lafayette il se trompe des fois de liste, de playlist. c'est un peu... Ça tombe sur. Non. Et puis surtout, t'as pas vraiment le temps de te concentrer sur ce qui passe. Sauf quand il y a personne. Bon, janvier, c'est quand même un mois pas super pour les ventes. Donc ça va, t'as le temps d'écouter la musique. Mais bon, voilà, peu importe. Je vais repérer les Gary et la Fayette de Berlin qui sont très bien. Allez-y, ils en ont besoin. David Bowie, Lazarus.
Ouais. Non mais moi j'ai les 10 jours qu'on suivit sa mort, je n'ai pas écouté autre chose que David Bowie. En fait c'est tombé par hasard, c'est juste que j'ai fait un voyage en bus ce jour-là, le premier jour, le jour de sa mort, et du coup j'avais mis sa musique et en fait j'avais juste pas envie d'écouter quoi que ce soit d'autre. Et en fait j'ai découvert des milliards, enfin on voulait faire un podcast un jour sur David Bowie parce que Dom est un grand fan de David Bowie aussi, et c'est un des trucs dont on avait parlé avant sa mort qu'on avait en commun. Et il y a par exemple, c'est American Dogs, je sais plus comment c'est comme ça comme qu'il s'appelle, ou c'est Machin Dogs, enfin en tout cas un album soul funk des années 70 que j'avais jamais écouté de ma vie, qui est hyper connu mais que moi je connaissais pas, que j'ai découvert justement après sa mort, parce que après sa mort tout d'un coup j'ai découvert un milliard de trucs que je connaissais pas, quoi.
Et toi, tu connais un peu David Bowie, Thibaut? Enfin, je veux dire, tu connais, j'imagine, mais...
Déjà il te fait très peur dans le salon.
Il parle de rap, etc. Ouais. Je sais pas si c'est une musique qui t'a marqué dans ta jeunesse.
David Bowie, moi, j'en connais pas grand-chose. Je sais juste que tu m'as montré une vidéo, un clip de lui.
Ah oui, mais c'est...
Un autre gars où il danse, mais...
Oui, mais c'est... Oui, c'est avec Mick Jagger et c'est là...
Un autre gars, c'est Mick Jagger.
Le chanteur, tu sais, des Rolling Stones.
Je sais pas.
Attends. Petit groupe. Méconnu.
Mick Jagger qui est une chanson, oui, mais ça, c'est... Ouais, c'est un...
Dancing in the Street.
C'est un ovni du...
Hein?
Le dernier clip des Rolling Stones avec... Non, c'est plus Rolling Stones.
Kristen Stewart?
Ouais, il y a un clip avec Kristen Stewart qui est sorti.
C'est les Rolling Stones ou c'est Aerosmith?
Non, c'est les Rolling Stones.
C'est possible.
Et dis donc, j'aime beaucoup ce clip.
Donc tu as vu ça,
c'était très drôle. Et sinon, la musique qu'il y a dans Les Gardiens de la Galaxie.
I'm a space invader.
Voilà, que j'arrête pas de chanter en plus en ce moment, parce que j'écoute beaucoup. Donc voilà. Mais ça s'arrête là. Je dois peut-être connaître quelques chansons que j'ai dû entendre. Si, parce que quand je travaillais, j'écoutais RFM
probablement, RMC, c'est mieux RFM que RFM.
Oui, RFM, et du coup je pense qu'ils ont dû passer des musiques de lui, donc je dois en connaître quelques-unes.
En fait, oui, c'est clair que tu dois en connaître, parce que en plus ça passe, t'as souvent vu des films avec des chansons, mais enfin, je veux dire, soit tu t'en souviens pas, parce que mais si tu les entends...
Mais on fera un... On fera un podcast David Bowie. On s'en fout qu'il soit mort il y a un an. Je veux dire, c'est toujours d'actualité de parler de David Bowie. Pour moi, sur nous, c'est... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'actualité...
On s'en tape.
Non, non, mais enfin, en plus, après sa mort, j'ai réalisé vraiment à quel point il était l'incarnation de ce que... En fait, toute mon idée de la culture populaire. Mais moi, quand j'avais à peu près ton âge ou un an de plus que toi, Thibaut, j'ai... C'est la première fois... J'ai vraiment découvert David Bowie, en fait, à ce moment-là seulement, parce que quelqu'un a oublié un CD chez moi. Okay. Et qui est Ziggy Stardust, qui est le...
Tu dis le mien, celui que j'ai perdu.
Et du coup, et dans, sur laquelle il y a la chanson, j'ai envie de dire Space Invader, mais c'est pas ça le titre de cette chanson. Mais c'est là-dessus qu'il y a cette chanson-là. Et moi, Ziggy Stardust, c'est le premier que j'ai aimé. Et je te le mettrai sur ton iPad et tu verras sur ton téléphone. Et tu l'écouteras si quand t'as envie de l'écouter. Mais c'est une bonne façon de découvrir David Bowie. Ouais. Parce que vu qu'il a 40 ans de musique, sinon, tu ne sais pas par où commencer. Même moi, là, je suis, ça fait un an que je l'écoute et je suis paumée.
Et voilà. Et toi ?
Alors, bah, moi, bah, en fait, c'est rigolo parce qu'au début, j'étais là, qu'est-ce que je vais prendre ? Et tu m'as dit ce que j'allais prendre en me disant, tu te fous de la gueule du monde.
Moi, c'est tellement logique que ce soit ça.
Genre, c'est genre le truc dont t'as parlé tout 2016.
Genre, vous avez un, vous savez, vous l'avez déjà au bout de la.
Oui, oui.
Tout le monde le sait.
Oui, tout le monde le sait. Voilà, c'est Hamilton, bien entendu. Ce qui veut dire quand même que sur nos 3 entrées musicales, on a 2 entrées hip-hop quand même, parce que même si Hamilton, c'est pas que du hip-hop, ça vient quand même dans la culture hip-hop, et surtout, c'est l'entrée fracassante du hip-hop dans la culture de la comédie musicale. Donc pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, je vais essayer de faire bref. Hamilton, c'est une comédie musicale qui a fait ses débuts à Broadway, off-Broadway pour être exact, at The Public, qui est, donc je ne connaissais pas le nom avant, mais... ma fanitude de Hamilton m'a fait connaître plein de détails que je ne connaissais pas jusque-là sur Broadway. En février 2015, c'est passé sur Broadway, vrai Broadway, en août. J'ai commencé à entendre parler, moi, en septembre-octobre. Et donc, ce que j'ai entendu dire, c'était le pitch de base, c'est l'histoire de Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs des États-Unis, un des moins connus. Et sauf que c'est sa biographie sous forme de comédie musicale fortement hip-hop, pas uniquement, mais à l'époque, j'en ai entendu parler comme un truc purement hip-hop, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres influences musicales dedans. Mais en tout cas, une grande partie, c'est du spoken word, donc du rap, et avec un cast pratiquement complètement non-blanc, ce qui ne veut pas dire un cast noir, ça veut dire un cast de couleurs diverses et variées. Et le seul personnage principal qui est joué par un blanc, c'est le roi d'Angleterre. ce qui ne manque pas d'humour, puisque clairement, ça veut dire que les Américains, donc du début de l'Amérique, c'est-à-dire ça commence à peu près en 1771 et ça se termine en 1804, sont joués par des gens qui ressemblent à l'Amérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire des Latinos, il y a une Asiatique aussi, des Blacks, et sachant que le personnage principal est joué par le créateur, auteur, compositeur, star, qui s'appelle Lin-Manuel Miranda et qu'on appelle le génie de Lin-Manuel Miranda parce qu'il a carrément, gagné un prix qui est un prix qu'on donne à des génies, c'est la Genius MacArthur Grant, donc il est officiellement un génie, qui a, je sais pas, 32 ans, et t'es là, really? 32 ans? Ou 33 ou 35, mais franchement, same difference, quoi.
En même temps, il a travaillé combien de temps sur son truc aussi?
Oui, il a travaillé 7 ans dessus. Ouais. Il a travaillé 7 ans dessus, et c'est que sa deuxième comédie musicale. La première s'appelle In the Heights, et je ne l'ai toujours pas écoutée. et lui, il est portoricain. Enfin, en tout cas, il a grandi aux États-Unis, mais il est d'origine portoricaine. C'est facile de dire que c'est un chef-d'œuvre parce que c'est une œuvre qui a vraiment traversé. Alors après, il existe encore des gens qui n'en ont jamais entendu parler aux États-Unis, ce qui me surprend beaucoup. Kristen, qui avait passé les 9 derniers mois à voyager. Donc une Américaine qui avait voyagé dans le monde, en Amérique du Sud et en Europe les 9 derniers mois, n'avait jamais entendu parler d'Hamilton. Je trouve ça très étrange pour quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui vient de cohabiter à San Francisco et qui est clairement intéressé par la culture. Mais ça ne l'avait pas atteinte, donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui n'en ont pas entendu parler. En France d'autant plus, bien entendu, parce que c'est... Bah, disons que c'est difficile, non seulement c'est une pièce de théâtre, en réalité, c'est un truc que beaucoup, beaucoup de gens ont surtout écouté, parce que même si ça a eu un succès incommensurable au niveau de son public, et ça continue à être joué, et ça va... Maintenant, c'est joué dans tous les États-Unis et ça va bientôt arriver à Londres. Et d'ailleurs, on est en train d'économiser l'argent pour y aller.
Oui.
malgré cela, ça a quand même été beaucoup, beaucoup aimé par des gens à l'écoute, mais c'est clair que quand tu parles pas parfaitement anglais, ou quand t'as pas les clés culturelles, ou quand tu te dis que le rap est, soyons clairs, que c'est beaucoup plus... C'est moins ghettoisé au niveau musical aux États-Unis parce que beaucoup de pop stars font un peu de rap et ça, enfin ça rentre, le hip-hop fait vraiment partie de la culture quotidienne. Pour nous, c'est vraiment plus compliqué. D'ailleurs, on a du coup fait un podcast, moi et 5 autres fans de Hamilton, le lendemain des Tony Awards. Malheureusement, quelqu'un a fait une erreur technique. Non, d'ailleurs, 3 personnes ont fait des erreurs techniques sur ce podcast. Donc, je suis toujours en train d'essayer de le monter. Et ça fait 6 mois. Un jour, je vous l'offrirai. Dedans, on parle en long, en large et en travers d'Hamilton. Disons juste que faites-vous plaisir, écoutez-le, c'est génial musicalement, c'est très très riche, c'est très très long, donc il y a largement de quoi faire selon vos goûts musicaux. Et si vous écoutez l'histoire et que vous lisez l'histoire en même temps, du début à la fin, vous allez découvrir un truc qui va vous faire pleurer, vous faire rire, vous faire réfléchir. Ça parle d'histoire, ça parle de politique, ça parle d'amour, ça parle d'écriture, ça parle de création, ça parle de 1 milliard d'autres choses. Ça parle aussi de mesquinerie, d'ego, de peur, d'adultère, de mort, de tout ce que vous voulez. Et franchement, c'est un truc qui m'a accompagnée toute l'année dans mes moments les plus euphoriques, dans mes moments les plus tragiques. Mais c'est surtout une leçon sur l'action sociale et politique. Et l'histoire que ça raconte et ce que ça a fait dans la culture américaine, d'avoir tout d'un coup une comédie musicale aussi populaire qui est du hip-hop avec des gens de couleur, qui a complètement changé la face d'une partie quand même assez réputée du divertissement américain, ça veut dire qu'on peut... Enfin, que l'histoire est jamais ni acquise, ni foutue. Qu'en fait, on est tout le temps en train de créer l'histoire et notre monde. Et qu'en fait, on peut le changer, il suffit de vouloir le changer. Et c'est la leçon d'Hamilton, mais c'est aussi, je pense, la leçon dont on a vraiment besoin. Plus que jamais, j'ai l'impression que la responsabilité de notre univers, elle repose sur nos épaules. Et c'est aussi sur le fait de trouver la force et le courage dans des moments de désespoir ou de défaite. Et ça aussi, on en a bien besoin, vu que clairement, tout le reste du monde se plaint aussi de 2016. je pense que voilà. Donc Hamilton, écoutez-le et remerciez-moi. Hein, c'est ça, non?
C'est vrai, effectivement.
C'est vrai, je
suis... Oui, j'ai... Heureusement pour moi, j'ai une famille qui me permet... Pardon, un petit frère.
Depuis
qui
me permet... C'est ma famille. Je me sens toujours concernée. C'est lui qui lui envoie des pics depuis tout à l'heure.
Donc j'ai un petit frère qui me fait garder les pieds sur terre parce que j'ai pas de risque de m'envoler. Mais voilà. Bon, après, je vous ai tous les deux plus ou moins forcés à écouter des bouts d'Hamilton et j'espère vous avoir convaincu de la grandiosité de cette œuvre.
Mais
tout à fait.
Oui.
Pour ça, oui.
Mais moi, c'est pour ça que j'ai attendu de ne pas être avec toi pour l'écouter, pour.
Mais
pour
tu sais
faire
quoi
mon propre avis.
Moi aussi.
Ouais, pour vraiment faire mon propre avis.
Je l'ai écouté quand elle était. Bah,
et surtout
pas
là. T'avoir à côté de moi en train de chanter.
Ça, t'as pas besoin de toute façon. Tu l'entends dans la douche.
Oui.
Tout partout.
Mais tu sais, comment gâcher une expérience musicale?
Oh, dis donc, ça c'est... Oh là là!
Il est dur, hein?
Il est dur!
C'est bien parce que tout Twitter va me plaindre. Vous voyez, ça c'est comment?
Après,
c'est comme
je
ça.
Peux comprendre,
j'arrive mon petit frère à donner son avis, à parler des trucs qui l'intéressent et
vous
il dit des choses comme ça.
On a pourchassé avec Hamilton. je suis venue l'année dernière en février.
6 mois. Ouais. 6 mois, j'aime pour moi, 6 mois.
Moi, ça a été.
Je vous ai pas pourchassé avec
ça. Non, j'ai pas pourchassé
avec ça. Moi, je dis que tu m'as pourchassé parce que je suis venue en février. Non, même pas. Parce que, attends, ça a commencé en novembre dernier quand je suis venue pour Thanksgiving.
Non, parce que j'ai écouté en janvier.
Ok, et bah, ah non, bah, c'est quoi? Alors, avec quoi tu m'as. Qu'est-ce que tu m'as fait à Thanksgiving? Tu m'as forcé à écouter un truc? En tout cas, l'année dernière, je suis venue en février et je sais plus ce qu'on était en train de faire et donc elle m'a fait écouter Hamilton. J'étais pas contente, j'ai écouté de moi-même. Mais après, ne sachant pas s'arrêter, elle a voulu que j'en écoute encore plus. Et là, tout me. Parce que, genre, le troisième jour, tu me l'as fait écouter. Et je suis resté combien de temps? Peut-être 10 jours. Et du coup, après, t'es là, ouais, il faut vraiment que t'écoutes Hamilton. Ah, faut que t'écoutes ça. Ah, et donc, du coup, j'ai entendu plein de choses d'Hamilton. Et j'ai mis beaucoup de temps, du coup, à l'écouter moi-même. Parce que j'avais. T'as raison, je dois beaucoup te contredire. C'était juste pour t'embêter. Parce que justement, ça m'a tellement saoulé que tu. Et puis quand je t'ai vu à Paris, t'arrêtais pas de me dire faut vraiment que t'écoutes Hamilton, c'est génial. Et donc plus tu m'en parlais, moi j'avais envie de l'écouter. Et donc il y a un moment où je l'ai écouté tout seul quand t'as arrêté de m'en parler, où t'as compris que ça servait à rien de trop m'en parler, où tu m'as fait Bon, je te laisserai, tu le découvriras tout seul quand on aura envie. Et à partir de là, j'ai écouté. Et oui, c'est génial comme truc. Et oui, ça mérite tout le succès qu'il a. Et oui, c'est génial.
Mais oui, toi aussi, d'ailleurs, tu le chantes sous la douche, mon chéri.
Ah oui ?
Bon, oui.
Aaron Burr, ça.
Ah ouais,
moi, c'est mon vélo.
Non, mais je tiens à dire que tu n'es pas le premier à avoir été harcelé par ma passion de quelque chose, quelle que soit cette chose, et que c'est pas tant que je pense que je vais te convaincre en t'en parlant, c'est juste que je peux pas m'en empêcher parce que je suis tellement habitée par la passion que j'ai besoin qu'elle sorte de moi, sinon je vais exploser. This is an awesome feeling when you are so close. Et voilà, comme d'habitude, on a fait trop long. Alors, j'ai coupé en plusieurs bouts. Retrouvez-nous dans quelques jours pour nos séries préférées et les quelques livres qu'on a réussi à lire en 2016. En attendant, partagez-nous, parlez-nous directement. Dites-nous ce que vous avez pensé de 2016 au niveau pop culture. Et on se retrouve très vite. Bonne pop d'ici là.
Ma mère ne sait toujours pas écrire ton nom, ton prénom.
Ça fait 20 ans.
Genre, oh, ça me saoule. Alors, Thibaut, c'est parfait.
C'est ça aussi, on
j'ai
va
oublié de lui dire bonne année, excusez-moi, je me rends compte que j'ai oublié de dire bonne année à ma mère. Oups.
Bon,
ne parlons pas de l'influence négative des gens français sur ce podcast. Moi aussi, ma grand-mère elle m'a envoyé un message, j'étais là, ok, merci.
Non, il est très bien ce message. Moi.
Elle a juste,
j'ai juste oublié de lui souhaiter mes vœux, comme je pense qu'elle n'écoutera pas ce podcast de toute façon.
On peut dire du mal de toute la famille, allez-y les gars.
Non, c'est pas du mal, c'est juste que j'ai oublié.
Et tu sais, tu dis ça, mais la force des choses, je veux que ça se trouve un jour. Je sais pas comment la personne tombe dessus et était là. Comment tenir dans une famille en trois leçons?
Bah écoute, c'est des choses qui. Peut-être on besoin de sortir.
Et surtout, c'est le moment où t'entends « Ah, j'ai écouté ton podcast !» Et tu fais
« Oh, lequel ?» Qu'est-ce que tu dis sur toi dans celui-là ?»
Et là, tu fais « Ah bon ?» Et t'as trouvé ça « Ah, j'ai pas eu le temps d'écouter en entier.
» Mais j'ai entendu la partie où...
De toute façon, la NSA nous aura dénoncé d'ici là. Bon, là, on arrive à un truc. Bah, la tête tapée sur la table, mais c'est pas grave. On va le garder.